Bonjour Ganga Lakshmi.
Bonjour Renu. Alors aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, l'idéal de l'unité humaine, traduit de l'anglais par mère. L'idée fondamentale peut s'énoncer ainsi. L'humanité est la divinité que l'homme doit adorer et servir. Le respect, le service, le progrès de l'être humain et de la vie humaine sont le devoir principal et le but principal de l'esprit humain. Nulle autre idole ne doit prendre sa place, ni la nation, ni l'État, ni la famille, ni rien d'autre. Et ceci ne sont dignes de respect que dans la mesure où ils sont des images de l'esprit humain, consacrant sa présence, aidant à sa manifestation. Mais lorsque le culte des idoles cherche à usurper la place de l'esprit et montre des exigences incompatibles avec son service, il doit être rejeté. Aucune injection des vieilles croyances, fussent-elles religieuses, politiques, sociales ou culturelles, n'est valable quand elle contredit les droits de l'esprit. La science elle-même, bien qu'idole en chef moderne, ne doit pas être autorisée à avoir des exigences contraires au tempérament éthique de l'esprit et à ses fins morales, car la science n'a de valeur que dans la mesure où, par la connaissance et le progrès, elle aide et sert la religion de l'humanité. La guerre, la peine de mort, la destruction de la vie humaine, la cruauté sous toutes ses formes, qu'elle soit commise par l'individu, l'État ou la société, et non seulement la cruauté physique, mais la cruauté morale, la dégradation de tout être humain ou de toute classe d'êtres humains sous n'importe quel prétexte spécieux ou dans n'importe quel intérêt. L'oppression et l'exploitation de l'homme par l'homme, d'une classe par une autre, d'une nation par une autre, et toutes les habitudes de vie, toutes les institutions sociales du même genre que la religion et la morale ont pu tolérer autrefois ou même favoriser en pratique, quel que soit, en dise, dans leurs règles ou dans leur credo idéal, sont des crimes contre la religion de l'humanité. Abominable à sa pensée éthique, interdit par ses principes primordiaux, ils doivent être combattus et jamais et à aucun degré toléré. L'homme doit être sacré pour l'homme, indépendamment de toute distinction de race, de croyance, de couleur, de nationalité, de statut, de position politique ou sociale. Le corps de l'homme doit être respecté, protégé de la violence et des outrages, fortifié par la science contre la maladie et contre une mort évitable. La vie de l'homme doit être tenue pour sacrée, garantie, fortifiée, ennoblie, exaltée. Le cœur de l'homme doit être considéré comme sacré aussi. Il doit avoir le champ libre, être protégé de toute profanation, tout étouffement, toute mécanisation et libéré des influences amoindrissantes. Le mental de l'homme doit être délivré de toute entrave. Il doit avoir la liberté, l'espace et des facilités pour recevoir tous les moyens d'éducation et de développement et organiser le jeu de ses pouvoirs au service de l'humanité. Et en outre, tout ceci ne doit être considéré comme un pieux sentiment ni comme une abstraction, mais être pratiquement et pleinement reconnu en la personne des hommes, des nations et du genre humain. Telle est, dans les grandes lignes, l'idée ou l'esprit de la religion intellectuelle de l'humanité. Il suffit de comparer la vie de l'homme, sa pensée, ses sentiments, il y a un siècle ou deux avec sa vie, sa pensée et ses sentiments dans la période d'avant-guerre, pour voir combien l'influence de cette religion de l'humanité a été grande et comme son travail a été fructueux. Elle a accompli rapidement bien des tâches auxquelles la religion orthodoxe avait manqué, effectivement, et ceci surtout parce qu'elle a constamment agi comme un dissolvant critique et intellectuel, un adversaire impitoyable de ce qui est, un inébranlable champion de ce qui sera, toujours fidèle à l'avenir. Tandis que la religion orthodoxe s'est alliée aux puissances du présent et même du passé, s'est enchaînée en pactisant avec elle et au mieux n'a su agir que comme une force de modération et non une force de réforme. Cependant, si elle veut réaliser tout son avenir, cette idée ou cette religion de l'humanité doit se rendre plus explicite, plus insistante, plus catégoriquement impérieuse. Cet ennemi, l'ennemi de la toute religion vraie, est l'égoïsme humain, l'égoïsme de l'individu, l'égoïsme de classe et de nation. Elle a pu pour un temps adoucir ces égoïsmes, les atténuer, les forcer à mettre un frein à leurs manifestations les plus arrogantes et les plus visibles, les plus brutales. Elle a pu les obliger à adopter des institutions meilleures, mais non à céder la place à l'amour de l'humanité, non à reconnaître cette unité réelle entre les hommes. Telle doit être essentiellement le but de la religion de l'humanité, comme ce doit être le but terrestre de toute religion humaine. L'amour, la reconnaissance mutuelle d'une fraternité des hommes, un sens vivant de l'unité humaine et une pratique de l'unité humaine dans la pensée, dans les sentiments et dans la vie. Tel est l'idéal qui fut pour la première fois exprimé dans l'ancien hymne védique. Il s'agit d'un hymne du rishi Samvana Angirasa Ahagini, la flamme intérieure qui conduit le voyage de l'être humain à la découverte du monde de la vérité au monde solaire. Ô feu, ô vigoureux, tu es le maître qui nous unit à toutes les choses. Tu flamboies haut sur les assises de la révélation. Tant que ceci ne sera pas accompli, la religion de l'humanité ne sera pas accomplie. Quand ceci sera fait, un seul changement nécessaire aura été réalisé, le changement psychologique, sans lequel aucune unité formelle et mécanique politique ou administrative ne peut être réelle et sûre. Si ce seul changement s'effectue, l'unification extérieure ne sera peut-être même pas indispensable, ou si elle l'est, elle se produira naturellement, non par des moyens catastrophiques, comme il semble probable maintenant, mais par la seule insistance du mental humain, et elle sera garantie par un besoin essentiel de notre nature humaine, plus développée et plus parfaite. Alors, il reste une petite fin maintenant. La question reste de savoir si une religion de l'humanité, une religion purement intellectuelle ou sentimentale, peut suffire à accomplir un aussi vaste changement dans notre psychologie. la faiblesse de l'idée intellectuelle, même quand elle s'appuie sur un appel aux sentiments et aux émotions, et de ne pas pénétrer au centre de l'être humain. L'intellect et les sentiments sont seulement des instruments de l'être, et il peut être ou bien des instruments de la forme extérieure et inférieure, ou bien des instruments de l'homme supérieur et intérieur, des serviteurs de l'ego ou des transmetteurs de l'âme. Le but de la religion de l'humanité s'est formulé au XVIIIe siècle par une sorte d'intuition fondamentale. La liberté, tant proclamée comme essentielle au progrès moderne, n'est qu'une liberté extérieure, mécanique et irréelle. L'égalité, tant recherchée et pour laquelle on s'est tellement battu, est elle aussi extérieure et mécanique, et finalement, elle se révélera irréelle. Quant à la fraternité, elle n'est même pas considérée comme un principe praticable dans l'organisation de la vie. Et ce que l'on propose à sa place est un principe extérieur et mécanique d'association égale ou au mieux une camaraderie de travail. Cet échec tient au fait que l'idée de l'humanité en notre âge intellectuel a dû masquer son caractère de religion, de mouvement de l'âme et de l'esprit, et s'adresser aux mentalités vitales et physiques de l'homme au lieu de faire un appel à son être intérieur. Son effort s'est borné à vouloir révolutionner les institutions politiques et sociales et à modifier les idées et les sentiments communs du mental humain afin que ces institutions puissent recevoir une application pratique. Elle a œuvré sur le mécanisme de la vie humaine et sur le mental extérieur plus que sur l'âme de l'espèce. Elle s'est efforcée d'établir une liberté, une égalité, une entraide mutuelle, politique, sociale et légale au sein d'une association égale. Ces buts ont une grande importance à leur niveau, mais ils ne sont pas la chose centrale. Ils ne peuvent être assurés que s'ils se fondent sur un changement de la nature intérieure de l'homme et de sa manière intérieure de vivre. En eux-mêmes, ils n'ont d'importance que s'ils aident à donner plus d'essor et de champ libre au progrès de l'homme vers ce changement intérieur et à la fois celui accompli s'ils deviennent l'expression extérieure d'une vie intérieure plus large. Alors, pour moi, cette fin de texte, c'est vraiment très important actuellement dans l'histoire d'Auroville. La liberté, l'égalité, la fraternité sont trois divinités de l'âme. Elles ne peuvent pas vraiment se réaliser par des mécanismes extérieurs de la société, ni par l'homme, tant qu'il vit seulement dans l'ego individuel et dans celui de la communauté. Quand l'ego réclame la liberté, il arrive à un individualisme compétitif. Quand il revendique l'égalité, il arrive d'abord au conflit. Puis il tente de fermer les yeux sur les variations de la nature et ne connaît d'autre moyen que de bâtir une société artificielle et mécanique. Une société qui cherche la liberté comme idéal est incapable d'arriver à l'égalité. Une société qui cherche l'égalité sera obligée de sacrifier la liberté. Et parler de fraternité à l'ego, c'est parler d'une chose contraire à sa nature. Tout ce qu'il connaît, c'est une association à la poursuite de fins égoïstes communes. Tout ce qui est capable de réaliser, c'est une organisation plus rigoureuse afin de répartir également le travail, la production, la consommation et les plaisirs. Et pourtant, la fraternité est la vraie clé du triple évangile de l'idée d'humanité. L'union de la liberté et de l'égalité ne peut s'accomplir que par le pouvoir de la fraternité humaine. Elle ne peut se fonder sur rien d'autre, mais la fraternité n'existe que dans l'âme et par l'âme. Elle ne peut exister par rien d'autre, car cette fraternité n'est pas une affaire de parenté physique, ni une association vitale, ni d'accord intellectuel. Quand l'âme réclame la liberté, c'est la liberté de se développer, de développer le divin dans l'homme et dans tout son être. Quand elle réclame l'égalité, ce qu'elle veut, c'est cette même liberté également pour tous et la reconnaissance d'une même âme, une même divinité dans tous les êtres humains. Quand elle cherche la fraternité, elle fonde cette égale liberté de développement sur un but commun, une vie commune, une unité de pensée et de sentiment, elle-même fondée sur la reconnaissance de l'unité spirituelle intérieure. En fait, cette trinité constitue la nature même de l'âme, car la liberté, l'égalité et l'unité sont les attributs éternels de l'esprit. Reconnaître pratiquement cette liberté, éveiller l'âme dans l'homme et tenter de le faire vivre dans son âme et non dans son ego. Tel est le sens intérieur de la religion. Et c'est cela que la religion de l'humanité doit parvenir également si elle veut se réaliser dans la vie de l'espèce. Alors le chapitre, c'est « La religion de l'humanité », chapitre 24, et c'est « L'idéal de l'unité humaine », chez Aurobindo. Alors je dépose ça aux pieds de Aurobindo et de Douce Mère.